De plus, il s'avère que d'après le témoignage du chirurgien et urologue, le Dr. Modrou intervenant sur les ondes de Sud Radio, la France via l'Inserm, par l'entremise de l'épidémiologiste Dominique Costagliola et de Marisol Touraine, serait directement intervenu au niveau de l'OMS pour bloquer toute forme de traitement à base d'ivermectine. Ils ont ainsi fait pression pour faire modifier les conclusions d'une étude demandée par Andrew Gill qui s'était avérée très concluante démontrant une efficacité spectaculaire de ce médicament, avec une diminution par 2 des symptômes et par 4 de la mortalité. De même, le Dr Tesla Mouri, chercheuse et directrice de l'Evidence-Based Medicine Consultancy, dans un avis lancé aux populations du monde entier, confirme bien que l'ivermectine fonctionne, mais que tout est fait pour retarder l'approbation de ce traitement. En outre, deux médecins généralistes mosellans, les Dr. Herbstein et Dr. Gastaldi ont été sommés de se taire par le Conseil de l'Ordre des médecins, alors qu'ils avaient trouvé un traitement très encourageant basé sur un protocole à base d'azithromycine et de zinc efficace contre la COVID-19. Comment ne pas voir dans tous ces agissements criminels, une volonté délibérée de bloquer toute forme de traitement thérapeutique, et de sortie de crise? Si on n'enclenche pas la chaîne de soins pour les malades, si on ne diagnostique pas, si on n'examine pas, et si on ne traite pas délibérément les patients, eh bien alors, les situations cliniques ne peuvent qu'empirer et les services de soins ne peuvent être que saturés. Jamais, on n'aura vu une telle approche dans toute l'histoire de la médecine, qui a toujours reposé sur le diagnostic du médecin, suivi d'un traitement adapté et rapide. Cette négation relève d'un refus de soigner, et donc d'un véritable crime, avec au 7 mai 2020, une surmortalité estimée à 25 000 morts, comme le rapporte le docteur Christian Prohn, l'ancien président de la Commission des maladies transmissibles du Haut Conseil de la Santé publique et ancien membre expert à l'OMS sur la politique vaccinale en Europe, dans son livre Réquisitoire explosif « Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise ?» Cet aveuglement volontaire est le péché originel de ce gouvernement, celui dont découlent toutes les autres fautes et crimes ultérieurs. C'est comme si dans sa profonde duplicité, Emmanuel Macron pour répondre à la guerre, à la croisade sanitaire qu'il avait déclarée contre ce virus, avait tout simplement choisi de délibérément désarmer les Français pour y faire face. Cela relève de la haute trahison du peuple de France et mériterait une destitution et un jugement en bonne et due forme. Mais, il faut bien comprendre que la négation de tout traitement était la condition préalable sine qua non pour l'autorisation de la mise sur le marché des différents vaccins. Et il fallait aussi dans un premier temps déclarer l'épidémie comme une pandémie pour légitimer leur production. Comme le dit l'essayiste Arnaud Aaron Upinski, il faut refuser le vaccin, parce qu'un chantage au hors du tout vaccin, point de salut et contre toute raison, toutes les règles. On vous dit, appliquez les règles, les gestes barrières. Mais eux n'appliquent pas les règles, ils n'ont aucun geste barrière, ni pour la morale, ni pour l'humanité, ni pour les règles scientifiques, ni pour le bon sens, ni même pour la logistique. Vacciner, oui mais pourquoi? Par ailleurs, pourquoi développer un vaccin pour un virus de la famille des coronavirus, qui ont pour principale caractéristique d'être génétiquement particulièrement instable, et hautement mutagène avec une souche qui évolue aussi souvent? En toute logique, la protection ne peut être durable avec un virus qui génère l'apparition d'autant de variants, comme on peut déjà le voir actuellement, avec l'apparition des variants brésiliens, anglais, sud-africains, ou encore bretons. De plus, il faut savoir que ces virus mutent sur la protéine Spike, qui est justement responsable de l'infectivité et qui est celle qui varie le plus. Il se trouve que c'est précisément aussi celle qui est ciblée par ces vaccins à ARN messager. Dès lors que la maladie n'est en soi pas immunisante, comment le vaccin pourrait-il alors bien l'être? Aussi, pourquoi alors prendre le moindre risque avec notre santé, sur de potentiels effets secondaires à très long terme? Le comble étant encore d'entendre dans un mémoire officiel, le ministre de la Santé Olivier Véran, avoué à demi-mot, en guise de réponse à un retraité vacciné qui avait saisi le Conseil d'État pour demander à recouvrer sa liberté, l'efficacité partielle des vaccins est devenue particulièrement contingente, du fait de l'apparition de nouveaux variants. Mais aussi que les personnes qui ont été vaccinées sont celles qui sont les plus exposées aux formes graves en cas d'inefficacité. D'après le virologue et expert mondial le Dr J.R. Van den Bosch, ayant travaillé pour la Gavi et Global Alliance, la Fondation Gates, avant de devenir indépendant, une vaccination de masse réalisée conjointement à une période épidémique, pendant une circulation virale forte est extrêmement dangereuse. Elle est la condition idéale pour entraîner des mutations du SARS-CoV-2 et donc l'apparition de nouveaux variants. Car, le virus cherche naturellement à adopter une stratégie de contournement rapide des anticorps spécifiques qui ont été générés par la vaccination. Ces derniers devenant alors rapidement caducs, c'est ce phénomène que l'on appelle l'échappée immunitaire. D'après ce scientifique, cette vaccination de masse en pleine pandémie a donc tout le potentiel pour transformer ce virus, qui somme toute s'est avéré pour le moment plutôt bénin, en une redoutable bombe biologique de masse. Il pourrait bien devenir super infectieux et capable de dépasser notre système de défense le plus précieux, à savoir notre système immunitaire. Comme le virus échappe très rapidement au vaccin, cette stratégie vaccinale n'a donc aucune pertinence. De ce fait, l'argument culpabilisant et responsabilisant comme quoi celui qui ne serait pas vacciné ferait courir un risque inconsidéré aux autres peut donc être totalement retourné. En effet, la vaccination induit l'apparition de nouveaux variants du virus. En induisant de nouveaux virus, on pourrait se retrouver face à une nouvelle forme encore plus virulente et pathogène, comme l'a aussi signalé le biologiste Jacques Testard. Chaque nouveau vacciné devenant alors un foyer potentiel pour l'émergence de nouveaux virus. De l'aveu même du gouvernement, lorsque l'on se vaccine, on augmente le risque de développer une forme grave de la maladie ou de mourir, en devenant particulièrement vulnérable aux nouveaux variants et aux réinfections. Les vaccinés abaissent donc leur défense immunitaire. Et comble de l'absurdité, les vaccinés seraient même plus contagieux. Donc en résumé, si on récapitule, vous vous vaccinez, donc vous devenez plus vulnérable aux variants, donc vous devez vous vacciner contre les variants, donc vous propagez davantage le variant autour de vous, ce qui favorise l'apparition de nouveaux variants contre lesquels vous devrez à nouveau vous vacciner, car vous serez davantage vulnérable, et ainsi de suite. On aboutit à une boucle infernale sans fin, au serpent qui se mord la queue. Assistons-nous donc ici à la naissance d'un nouveau et immense marché mondial, d'une société de la vaccination continuelle, avec l'imposition régulière de nouveaux vaccins toutes les quatre saisons, et l'entretien permanent d'un carnet vaccinal? C'est bien ce que semble annoncer Stéphane Bancel, le PDG de Moderna, qui nous assure que le virus serait là pour toujours et que la piqûre devra donc se renouveler tous les ans. Et pourquoi pas à l'apparition de chaque nouveau variant? Pfizer ne parle maintenant même plus de pandémie, mais d'endémie, c'est-à-dire un business plan, et une manne financière assurée pour toujours. Les actionnaires se frottent déjà les mains. La belle affaire. Il ne faut donc surtout pas consentir à cet engrenage infernal, si l'on ne souhaite pas être transformé en patient chronique captif de ces nouveaux marchés pharmaceutiques simplement sur la vague promesse que ces produits permettraient potentiellement de ne pas contracter de forme grave d'une infection virale qu'ils semblent par ailleurs incapables de prévenir. Curieusement, pour ce nouveau vaccin, comme par enchantement, on débloque de faramineuses sommes pour acheter ces millions de doses, et les infrastructures de conditionnement qui vont avec. De même, les médecins sont grassement payés pour vacciner leurs patients, jusqu'à 420 € de forfait pour une demi-journée de 4 heures. Alors que pourtant, cela fait des années que l'on n'a rien, strictement rien investi dans l'hôpital public, car il n'y aurait pas, dixit Macron, d'argent magique. Bien au contraire, ce dernier a durant des décennies été méticuleusement et consciencieusement saboté, de gouvernement en gouvernement. Et là, avec cette crise sanitaire, et son confinement inédit, on fait mine de se préoccuper de la santé des gens, en la faisant passer pour la toute première fois avant le calcul froid du profit économique. À d'autres. N'oublions jamais que ce même gouvernement est allé il y a quelques mois, lors de manifestations de rue jusqu'à martyriser le personnel soignant. Des infirmières furent même traînées sans le moindre ménagement au sol, ou par les cheveux par les forces de l'ordre, alors qu'elles ne faisaient que crier leur profond désarroi, et réclamer de manière bien légitime des moyens décents pour les hôpitaux. Bien entendu, comme on pouvait s'y attendre au niveau de l'Union européenne, une totale opacité sur les négociations et les contrats passés avec les laboratoires de Big Pharma a été de mise. Aucun compte à rendre sur les faramineuses sommes engagées en argent public, sans pour autant que les brevets ne tombent dans le domaine public, comme l'a dénoncé l'eurodéputé Michel Rivasil. Aussi, pourquoi chercher à vacciner à tout prix tout le monde, sans avoir le moindre recul sur les effets secondaires au niveau de la santé pour les mois et années à venir, le tout au mépris du plus élémentaire principe de précaution? Cela est parfaitement contraire à tous les grands principes éthiques du soin, au code de Nuremberg et à la déclaration d'Helsinki de 1964, qui est le document officiel de l'Association médicale mondiale. C'est juste insupportable. Des vaccins sans risque, vraiment? D'ailleurs, ces vaccins semblent être tout sauf sans risque, car il semblerait d'après les statistiques du CDC américain, que rien qu'avec le vaccin développé par la firme Pfizer, on dénombrerait déjà parmi les premiers vaccinés, une proportion d'effets secondaires graves de l'ordre de 2,8%, ce qui est tout simplement considérable, surtout pour une maladie qui à la base, ne frapperait tout au plus que 0,5% de la population, et presque exclusivement les personnes âgées. Et ne parlons même pas des potentiels problèmes qui ne manqueront sans doute pas de se déclarer ultérieurement. Pire, suite à la campagne de vaccination en cours, les décès mystérieux survenus juste après l'injection commencent à s'accumuler dans différents pays, comme à Miami, au Portugal, en Israël, en Suisse ou en Islande. Au 22 janvier, le CDC rapportait 329 décès aux États-Unis et 285 dans d'autres pays et pas moins de 9516 incidents. En Israël, qui est très en avance sur cette campagne vaccinale, les premières remontées du terrain sont catastrophiques, avec une explosion spectaculaire de la mortalité pour le mois de janvier sur les populations les plus fragiles. En 3 mois, le vaccin de Pfizer aurait le triste palmarès de 6000 morts juste pour l'Union européenne. De même, dans les 2 mois suivant l'injection, le nombre de contagions n'a pas du tout été contenu par le vaccin, si bien que les malades ont paradoxalement été multipliés par 3. C'est à une explosion épidémique à laquelle nous assistons dans les pays qui ont le plus vacciné. Le ministère de la Santé déclare que sur 100 000 personnes vaccinées, 11% de ces personnes seraient devenues Covid positif en seulement 2 semaines, soit une probabilité beaucoup plus élevée de devenir Covid positif dans la population générale. Un comble. On a pu observer le même phénomène en Angleterre, avec un mois de janvier catastrophique, mais également aux Émirats Arabes Unis, où les contaminations journalières sont supérieures de 4 fois et le nombre de morts journaliers de 2 fois par rapport à la situation d'avant le début de la campagne. Ce constat alarmant peut être attribué à l'effet des anticorps facilitateurs, qui font que paradoxalement, après la vaccination, le virus se diffuse encore plus vite. C'est un phénomène bien connu lorsque l'on vaccine en pleine épidémie, et qui s'était déjà produit dans le cadre du vaccin contre la dengue. De plus, d'après la généticienne Alexandra Orion-Code, une personne vaccinée émettrait jusqu'à 6 fois plus de particules virales. En somme, sur les 3 pays champions de la vaccination concernant les 3 premiers mois, les résultats précoces sont déplorables. En France, le personnel soignant, qui était prioritaire pour la vaccination, s'est vu touché par des effets secondaires massifs, certes souvent assez bénins, mais avec jusqu'à 25% du personnel affecté se trouvant dans l'incapacité momentanée de travailler. À tel point que le service hospitalier a été contraint de stopper en toute urgence la vaccination pour l'échelonner par service, et limiter la casse, et les arrêts de travail intempestifs. Et que penser du fiasco intégral du vaccin AstraZeneca, qui après plusieurs morts, et des centaines d'effets secondaires très graves relevés à travers le monde, avec notamment des risques de thrombose, de formation de caillots sanguins, et la disparition massive de plaquettes, a été massivement suspendu dans une 20aine de pays. Ainsi, le 15 mars 2020, Emmanuel Macron a annoncé l'arrêt de ce vaccin, alors même que tout juste 4 jours avant, le ministre de la Santé Olivier Véran se voulait des plus rassurants en affirmant péremptoirement que d'après l'Agence Nationale de la Santé, il fallait avoir une parfaite confiance dans ce vaccin. Pire que cela, la veille de l'annonce du retrait par Macron, Jean Castex avait lui aussi maintenu qu'il n'y avait aucun problème avec ce vaccin, alors même qu'il était déjà retiré dans 8 pays à ce moment-là. Comment placer sa confiance en de tels affabulateurs pathologiques? Peut-être. Faut-il voir dans ce retrait une énième manœuvre, une stratégie visant à imposer les 2 autres vaccins à base de thérapie génique, et d'ADN messager?